Bonjour, je suis Carole du blog 28 jours de la vie d'une femme et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un problème pas forcément féminin, pas forcément hormonal, quoique les problèmes de peau. La peau n'est pas un organe ou un système exclusivement féminin. Les hommes ont les mêmes attributs de ce côté-là et on peut expliquer la peau, son fonctionnement et ses fonctions de manière assez exuie. Pourtant, je n'ai rencontré que peu d'hommes, sauf les adolescents pour qui le passage de la puberté est vraiment problématique, qui m'ont consulté spécifiquement pour des problèmes de peau. Des femmes par contre, et je me souviens particulièrement de F. F avait un problème de rosacée, assez sévère. Outre l'accompagnement que nous avons entamé ensemble, j'ai été touchée par la détresse de F. Elle était réellement handicapée par son souci de peau et ses proches semblaient ne pas la soutenir, lui renvoyant une image de femme superficielle. J'ai compris avec F à quel point la peau était notre premier contact avec le monde extérieur et dans un monde où l'apparence tient une place importante, il me semble ne pas relever de la superficialité que de se préoccuper de la bonne santé de sa peau. Alors, à quoi sert la peau ? La peau protège. La peau est avant tout une barrière physique destinée à protéger les organes internes et plus globalement l'organisme entier de la pénétration d'agents pathogènes. À cette barrière physique s'ajoute une barrière chimique et biologique. La peau sécrète des substances qui attaquent littéralement les éléments indésirables qui arrivent à sa surface. Il en est ainsi de certaines cellules de l'épiderme, les kératinocytes et les mélanocytes notamment. Les glandes sébacées aussi, par la sécrétion de sébum, bactéricide, participent à cet effort de protection. Enfin, les poils sont également une part importante de la protection de l'organisme, mécaniquement et chimiquement, puisqu'ils sont enduits de sébum. Ce point est important, notamment au niveau vulvaire, car les pratiques d'épilation totale à cet endroit méconnaissent la fonction protectrice des poils contre de possibles infections. Les petites filles sont d'ailleurs plus exposées à certaines de ces infections, justement parce qu'elles n'ont pas encore de poils. À méditer. La peau régule également. Elle sert de thermostat en étant le vecteur par lequel l'organisme va veiller à ne pas trop chauffer intérieurement. C'est la transpiration qui remplit ce rôle de régulateur de la température interne. La sueur n'est pas là que pour nous mettre dans l'embarras avec de jolies auréoles sur nos vêtements. Ce sont les glandes sudoripares qui se chargent de cette tâche. On peut aussi sentir par la peau. La peau a la même origine embryologique que le système nerveux. Cela signifie que ces deux systèmes sont liés. Quand j'utilise le terme « sentir », c'est bien évidemment pour évoquer cette capacité à ressentir le froid, la chaleur, mais aussi la douleur parfois, ou, bien plus agréable, les caresses. Ce sont les récepteurs nerveux qui se chargent de cette fonctionnalité bien pratique. Quand on pose la main sur une plaque chauffante, on est bien content que notre système nerveux nous la fasse enlever avant même qu'on ait analysé la source de la sensation. Mais l'origine commune du système nerveux et de la peau fait dire aussi à certains spécialistes que l'état de la peau reflèterait l'état intérieur. Je ne suis pas une grande fan de la lecture systématique des mots par le décodage biologique. Mais force est de constater que nombre de problématiques psychiques, lorsqu'elles sont réglées, permettent d'observer une nette amélioration des problématiques de peau. La peau métabolise aussi. La peau est très vascularisée. Elle peut rassembler près de 5% du volume total de sang dans le corps. Or, quand le sang passe par la peau, certains de ces éléments peuvent subir une transformation biochimique. Si je vous parle de la vitamine D par exemple, eh bien le cholestérol qui passe par la peau va subir une première transformation avant d'aller vers d'autres organes qui continueront le processus jusqu'à obtenir de la vitamine AD active. C'est aussi au niveau cutané que s'opère la transformation de cortisone en hydrocortisone. Cette dernière permet de soulager des sensations de brûlure ou de démangeaison, par exemple. La peau évacue. Je vous parlais de la transpiration tout à l'heure comme moyen de réguler la température interne du corps. La sueur est aussi une voie d'évacuation de certains déchets métaboliques, tels que l'urée, ouais, comme dans l'urine, l'acide urique aussi, ou encore l'ammoniac et l'acide lactique. Au niveau des aisselles et de la zone comprenant l'anus, le périnée et les voies génitales, les glandes sudoripares sont plus grandes. Elles évacuent les mêmes éléments que les autres glandes sudoripares ailleurs dans le corps, auxquelles s'ajoutent des lipides et des protéines. Il n'y a pas d'odeur propre à la sueur. Par contre, les déchets organiques qu'elle contient vont être dégradés par les bactéries présentes à la surface de la peau. C'est le résultat de cette dégradation qui va donner une odeur à votre sueur. Nous le verrons plus loin, mais inutile de se laver à outrance pour y remédier. C'est l'équilibre du microbiote et la quantité de déchets que vous lui procurez qui va faire la différence. Alors, quels sont les principaux problèmes de peau ? Si je devais établir un top 3 des problèmes liés à la peau pour lesquels on vient me consulter, l'acné aurait la médaille d'or haut la main. Et pas seulement durant la période adolescente et, comme je vous le disais en introduction, majoritairement de la part de femmes. Il existe différentes sortes d'acné. Les dermatologues le classent plutôt en fonction de la sévérité des symptômes. D'autres classent l'acné selon qu'il est inflammatoire ou non. C'est aussi un classement que je peux utiliser pour me guider dans la phytologie à utiliser. On peut aussi différencier l'acné selon qu'il a son origine dans un déséquilibre émonctoriel exclusivement ou dans un déséquilibre hormonal. Cette dernière approche est la mienne car guidée par mon raisonnement naturopathique. En tout cas, les glandes sudoripares et les glandes sébacées évoquées plus haut sont considérées en naturopathie respectivement comme des petits reins et des petits intestins. La peau peut donc devenir un émonctoire secondaire de ces organes. Cela signifie que si les reins ou les intestins en tant qu'émonctoires principaux sont débordés par le travail d'évacuation des déchets métaboliques, la peau va s'en charger pour les soulager et évacuer ce qui demande à l'être, coûte que coûte. Considérant les reins, cela peut se traduire par de la sueur plus abondante, plus odorante, puisque chargée de plus de déchets, et pour les intestins, cela peut être cause d'acné. En effet, les glandes sébacées vont devoir évacuer plus de déchets à travers le sébum et elles peuvent à cette occasion se boucher, parfois s'enflammer, et c'est l'acné. Après l'acné, il y a les vergetures. Ah, les vergetures. J'ai l'impression qu'elles sont sur toutes les lèvres passé un certain âge ou une grossesse. Ben ouais, c'est possible d'avoir des vergetures si on a connu une période de prise de poids importante suivie de pertes tout aussi importantes. L'étirement extrême de la peau qui en résulte provoque des cicatrices parce qu'il aura déchiré la peau au niveau du derme, donc assez profond quand même à l'échelle de la peau. La cicatrice souvent passe par le rouge, puis le pourpre et enfin le blanc argenté. Elle est vue comme disgracieuse, d'autant plus que nous ne sommes pas tous égaux devant la vergeture. Le derme contient du collagène et de l'élastine notamment. Et cela lui donne des propriétés plus ou moins élastiques en fonction de la teneur chez les personnes. On peut apporter du collagène via des compléments ou des crèmes qui peuvent soutenir la peau dans les moments à risque, comme la grossesse, mais j'ai le regret de vous dire qu'il y a visiblement une composante héréditaire importante. Observez votre mère et respirez de soulagement ou pleurez. Non, je rigole. Je vous donne des astuces en fin d'article. Parlons maintenant des mycoses ou du psoriasis. Bon, je peux pas m'empêcher de vous diriger petit à petit vers les spécificités féminines. Non, la mycose ou le psoriasis ne sont pas réservés aux femmes, ni même ils se contentent de nous irriter le slip. Les hommes aussi peuvent avoir des mycoses, et les hommes et les femmes peuvent avoir des mycoses partout sur le corps, et être atteints de psoriasis aussi. Seulement les mycoses, dans ma pratique, sont plus souvent des motifs de consultation féminine, et plus souvent au niveau vulvaire, et le psoriasis vulvaire n'est pas souvent évoqué, mais il peut être l'origine d'une mauvaise prise en charge des professionnels de santé. Je m'explique. La mycose, en général, vous connaissez. Et parfois, si certaines femmes sont traitées durant de longues années pour des mycoses récidivantes, alors qu'il s'agit de psoriasis. Attention, c'est pas évident. Les deux ont pratiquement les mêmes façons de se signaler. Démangeaisons, brûlures de la vulve, rougeurs. Mais le psoriasis, contrairement à la mycose, ne provoque pas de perte vaginale. Il ne faut donc pas confondre, car le traitement est différent. Il fallait bien tout ça pour planter le décor avant de vous parler des solutions, non ? Allez, vous avez écouté jusqu'ici, donc vous l'avez bien mérité. Voici mes recommandations générales pour prendre soin de votre peau. Avant toute chose, des recommandations globales. Vous avez envie d'une belle peau nette ? Arrêtez de fumer, dormez et hydratez-vous. Ensuite, il va falloir nourrir sa peau de l'intérieur. La peau a besoin d'éléments pour se renouveler et rester saine. Elle est constamment en train de fabriquer de nouvelles cellules pour rester opérationnelle dans toutes ses missions. Savez-vous que nous renouvelons notre épiderme en 25 à 45 jours entièrement ? Il faut donc la nourrir correctement et surtout ne pas donner trop de sources de déchets métaboliques ni d'éléments pouvant induire une inflammation en cas d'acné. En résumé, dans son alimentation pour la peau, il faut avoir des sources d'oméga 6, pour avoir des phospholipides qui maintiennent la souplesse de la membrane des cellules, donc aussi de la peau. Mais ça, en général, on n'en manque pas. Il va surtout falloir penser aux oméga 3 pour assurer le bon équilibre entre les deux sortes d'oméga. Peu de produits laitiers, surtout en cas d'acné inflammatoire. Peu de sucre, pour les mêmes raisons. Des sources de zinc, c'est un oligo-élément ultra utile pour la peau. Et des sources de collagène. Pour ce qui est du nettoyage de la peau, je vais peut-être vous choquer, mais il est hors de question de se récurer dans tous les coins trop souvent. Vous détruisez la couche de sébum protectrice en le faisant et le microbiote de votre peau s'en trouve déséquilibré. Donc en premier lieu, un lavage par jour est suffisant. Exceptionnellement, si vous avez une soirée, une réunion importante et que vous sentez le fennec, vous pouvez prendre une douche supplémentaire. Mais au quotidien, on s'en tient à une toilette. Et pourquoi pas de temps en temps, quand vous n'avez pas d'engagement social, sauter une douche et vous contenter d'une toilette aux endroits stratégiques. Concernant les produits à utiliser, il est important de respecter le pH naturel de la peau. Il est compris entre 4 et 6, donc trouvez un produit s'en approchant. Un rituel que j'aime beaucoup aussi, le brossage à sec. Il suffit d'avoir une brosse souple et de se brosser la peau partout sur le corps. Les cellules mortes sont mieux éliminées, la peau est stimulée et du coup, le sang affluent, il va venir mieux nourrir les cellules localement et emporter les déchets. Si avec tout ça, vous avez des soucis, voici quelques auxiliaires bien utiles. L'huile essentielle de tea tree, très connue parce que facile d'utilisation et généralement bien supportée, c'est l'huile essentielle de la peau par excellence. Elle brille par ses propriétés anti-infectieuses, antifongiques et anti-inflammatoires. Le géranium rosa qui va pouvoir lui aussi être utilisé dans beaucoup de cas de dermatose. L'huile essentielle de rose de Damas va agir sur les vergetures. Attention, j'ai pas l'habitude de vendre du rêve, donc je vous préviens, plus la vergeture est ancienne, moins facilement elle disparaîtra, voire il restera quelques traces. La bardane, parfaite en cas d'acné inflammatoire et dans le cas où le foie soit impliqué. La pensée sauvage aussi pourra être utilisée contre l'acné pour purifier la peau. L'aloe vera, qu'on ne présente plus, avec ses propriétés cicatrisantes et apaisantes. Et ma petite préférée, à laquelle on ne pense pas assez souvent, la pâquerette. Elle va agir en cas d'inflammation chronique sur la peau et pourra contribuer à améliorer l'acné, la rosacée, l'eczéma et le psoriasis. Vous pouvez aussi en faire une infusion. Et si ça ne passe pas, il faudra probablement faire un bilan complet pour trouver d'où vient le problème. Ne désespérez pas, la peau peut vous pourrir la vie et pourtant, rappelez-vous qu'elle vous protège. Souvent, quand on trouve de quoi elle nous protège, on tient une clé. Et vous ? Quel est votre rapport à votre peau ? N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de l'article et commençons à échanger. À très bientôt !